France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors une émission un peu spéciale ce soir puisqu'elle sera divisée en deux parties, de 20h30 à 21h, on parlera loi travail hein, et cette nouvelle loi donc justement lancée par Emmanuel Macron. Et bien sûr, dans cette première demi-heure, nous évoquerons ce nouvel attentat qui a touché l'une des plus grandes salles de concert d'Europe à Manchester. Un bilan lourd, 22 morts, une centaines de blessés revendiqués par l'État islamique, un suspect identifié âgé de 22 ans. Et pour en parler ce soir, les informés de France Info reçoivent le géopolitologue Frédéric Ancel, bonsoir.
Bonsoir.
Également le général Bertrand Soublet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien numéro 3 de la gendarmerie nationale. Éric Scholl, bonsoir, directeur bonsoir. De Courrier International. Et Guillaume Clossat, bonsoir. Bonsoir, fondateur du think tank Europa Nova. Voilà, je ne me trompe pas, excusez-moi. De la musique encore et toujours, les informés de France Info, mardi 23 mai, c'est parti. Manchester n'est pas une belle ville, mais comme beaucoup de cités disgracieuses, il ne faut pas hésiter à s'y enfoncer pour trouver de la lumière. Derrière ces briques rouges et ces usines fatiguées, il y a des théâtres, des écrits et de la musique, beaucoup de musique pour toute une génération. Il y a Oasis et Happy Mondays et Stone Roses ou encore les Smiths. D'ailleurs, son chanteur Morrissey fêtait hier son anniversaire. C'est cette musique et cette vie qui a été de nouveau frappée hier soir lors d'un concert d'une pop star, un autre genre de musique, idole des adolescents, Ariana Grande. Un nouvel attentat donc revendiqué par l'État islamique, l'un des plus sanglants sur le sol britannique depuis 12 ans. Manchester a tellement connu de crise économique qu'on l'a surnommé le phénix du royaume. Elle se relève toujours à chaque fois. Et là, encore, Andy Buman, maire de Manchester.
Nous n'allons pas nous faire battre par ces extrémistes. Ils veulent nous diviser. Greater Manchester est un lieu où l'on croit au vivre ensemble et nous continuerons à y croire. Nous voulons que la région de Manchester s'unisse et j'appelle les gens à montrer leur soutien en participant à la veillée ce soir. Le message le plus important est que nous devons rester unis et que nous ne les laisserons pas gagner.
Voilà Andy Buman, donc maire de Manchester. Frédéric Ancel, c'est terrible, mais c'est vrai que ces images nous ont rappelé à nous Français d'autres images, celles du 13 novembre, le Bataclan. La même cible, la musique, la jeunesse, ce sont des cibles privilégiées par l'État islamique.
Absolument privilégiées, non seulement par l'État islamique, mais par tout ce que la planète compte d'islamistes radicaux. Ces gens-là nous haïssent, nous détestent, pas parce que nous faisons quelque chose en Syrie, en Irak ou au Mali. Ça, c'est secondaire comme variable de prise de décision. Mais la constante, c'est parce qu'effectivement, nous sommes des sociétés ouvertes, plurielles. Qui dit société ouverte, dit des sociétés au sein duquel des musulmans, et notamment des musulmanes, et en particulier des jeunes musulmanes, peuvent s'intégrer, peuvent éventuellement s'assimiler, peuvent boire de l'alcool, peuvent fréquenter des garçons, peuvent aller danser, chanter, etc. Et il faut bien comprendre que tout cela, ça correspond à une horreur absolue pour les islamistes radicaux. Ils appellent ça la zina, c'est la prostitution au sens presque philosophique du terme, mais un terme extrêmement fort qui renvoie à un dégoût absolu. Donc oui, la constante, hein, c'est le plus petit dénominateur commun, en quelque sorte. Après, vous avez, je crois on y reviendra, des lieux symboliques, des temps symboliques, un timing particulier, de la logistique, un modus operandi, mais la constante, c'est vraiment la détestation de nos sociétés ouvertes.
Alors, Bertrand Soublet, c'est vrai, est-ce que vous aussi, ça vous a fait penser à revoir des images, même si c'est une salle beaucoup plus grande, hein, c'est une des plus grandes salles d'Europe, encore cette musique, voilà, les concerts, cette jeunesse, cette vie, finalement, aussi, véritablement visée?
Absolument, c'est un symbole. C'est le symbole de nos démocraties, de nos démocraties ouvertes, où on a une certaine liberté qui n'est pas la même que celle que défendent les islamistes radicaux, parce qu'ils n'en défendent pas l'ombre d'une petite partie, d'une petite parcelle. Donc, c'est symbolique. Parce que au Bataclan, nous étions dans, et en plus techniquement, nous étions dans une enceinte fermée. Et là, nous sommes aux abords d'une salle de spectacle. Et les modes opératoires sont un petit peu différents quand même.
C'est-à-dire là, quand vous dites différent, c'est-à-dire là, c'est pas en effet, un commando presque militaire comme on l'avait eu au Bataclan. C'est
absolument. Ça là, vous avez simplement un attentat suicide, quelqu'un qui avait une ceinture d'explosifs, un explosif un petit peu particulier du TATP. Il faut être un petit peu artificier ou alors il faut avoir des logisticiens autour de soi pour pouvoir manipuler cette affaire-là. Les autres étaient arrivés avec des kalachnikovs. C'est autre chose, c'est un autre mode d'action. Et puis, ils ont fait un attentat de masse à l'intérieur d'une salle, tandis que là, ils étaient dans un couloir de métro. Et je pense que de ce point de vue-là, c'était probablement un peu plus improvisé que le Bataclan.
Alors forcément, juste une chose, Frédéric Ancel, quand on dit artificier, on pense tout de suite à réseau. Il y a un homme de 23 ans qui a tout de suite été arrêté, finalement, ce matin par la police britannique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, il faut arrêter de penser qu'un terroriste agit seul. Il y a toujours, finalement, derrière, un réseau.
Les loups solitaires, ça n'existe quasiment pas. Je dis bien quasiment pas. Il y en a eu quelques-uns. On se demande d'ailleurs dans quelle mesure ils étaient en lien ou en réseau avec Daesh. L'exemple évidemment le plus fameux, c'est celui de c'est l'assassin de Nice. Dernier, on se demande en réalité si il était et si oui avec quel type de réseau islamiste. Donc ça existe d'autant moins que sur le plan logistique et technique, effectivement, on ne peut pas s'en sortir tout seul, à moins d'avoir une compétence, une qualification très importante, c'est-à-dire d'être allé crapahuter déjà en Syrie et en Irak. Or, ils sont de moins en moins nombreux à y aller, d'abord parce que c'est difficile, on surveille beaucoup les frontières, on les écoute en amont, en aval les frontières sont fermées, et puis parce que ils ont peur de se faire attraper. Donc nous avons maintenant une nouvelle génération ou une sous-génération de jeunes gens qui s'auto-radicalisent sur le net, parce qu'en réalité, dans les mosquées, ils savent qu'ils sont écoutés. Deux, qui ne montrent même plus de signes de radicalisation à l'entourage, de façon à ce qu'on ne les repère pas, et qui vont tenter, parfois avec un couteau de cuisine, parfois avec un peu plus, de frapper avant même, peut-être pour certains, d'avoir l'accord ou l'imprimatur, en quelque sorte, de Daesh.
Et Guillaume Clossat, vous-même, on l'a vu, ça fait il y a 2 mois et 1 jour, l'Angleterre, la Grande-Bretagne était déjà frappée, c'était à Londres, par un attentat d'une moins grande ampleur. Pourquoi la Grande-Bretagne est particulièrement visée ?
Alors, il n'y a pas que la Grande-Bretagne qui est visée. Et si on se rappelle de Charlie Hebdo, dans le message qui avait été envoyé, c'était la France et l'Europe. Et la Grande-Bretagne fait partie de l'Europe, même si elle sort de l'Union européenne. De facto, elle fait partie de la civilisation européenne, des valeurs européennes, etc. Premièrement. Deuxièmement, le Royaume-Uni est assez symbolique parce qu'il a une culture de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme qui est extrêmement fort. Et le symbole, c'est que barricadez-vous autant que vous voudrez, mais ne vous inquiétez pas, quels que soient les moyens que vous mettiez en œuvre pour vous défendre, on sera là. Et donc, c'est pour signifier la fragilité de nos systèmes. Et par rapport à la police française ou à d'autres polices européennes, il y a une vraie coopération entre les services intérieurs et les services extérieurs. Il y a un vrai travail d'équipe. Il y a des moyens qui sont en place. Il y a une culture de l'investigation, une culture académique. On pense toujours aux... Donc, les Britanniques sont vraiment les plus avancés en matière de lutte contre le fondamentalisme, alors, l'islamisme, etc. Et donc là, c'est pour montrer la fragilité de nos systèmes et quelque part l'absurdité. C'est-à-dire qu'on peut faire quoi qu'on veuille, ils arriveront à nous toucher.
Alors on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Pierrick Bonneau.
L'attentat de Manchester a été perpétré par un jeune homme de 22 ans. Selon la police britannique, il s'appelle Salman Abedi. Il est mort lors de l'attaque revendiquée par l'organisation État islamique. L'attaque a été menée par un soldat du califat, précise un message sur les réseaux sociaux. Un homme de 23 ans en lien avec l'attaque de Manchester a également été arrêté en France. Le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, annonce le renforcement des mesures de sécurité sur l'ensemble des événements à venir. 12 enfants au total sont toujours à l'hôpital ce soir, selon des médecins urgentistes de Manchester. 22 morts au total et une soixantaine de blessés. Une fillette de 8 ans figure parmi les victimes, globalement toutes très jeunes. L'explosion revendiquée par Daesh a eu lieu dans le foyer de la Manchester Arena à la sortie d'un concert de la popstar américaine Ariana Grande. Emmanuel Macron a poursuivi ses prises de contact aujourd'hui avec les responsables syndicaux et patronaux en vue de la réforme du Code du travail. Le président français n'est pas entré dans les détails des mesures qu'il veut prendre par ordonnance. La CFDT, la CGT et Force ouvrière ont tour à tour plaidé pour assouplir le calendrier de ce délicat chantier. Le MEDEF répète qu'il souhaite que le gouvernement agisse vite. Selon la CPME, Emmanuel Macron veut boucler la réforme courant septembre. On l'a appris en milieu d'après-midi, la mort de Roger Moore, l'acteur britannique qui s'est notamment illustré dans son rôle dans James Bond. Il est mort à l'âge de 89 ans. Les funérailles de Roger Moore se dérouleront dans la plus stricte intimité à Monaco, indiquent ses enfants.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons bien sûr de cet attentat perpétré à Manchester, donc hier soir lors d'un concert dans l'une des plus grandes salles d'Europe, 22 000 personnes, Ariana Grande, c'est la pop star dans sa tournée mondiale qu'il donnait, c'était à la fin du concert. Eric Scholl, directeur du Cour international, la campagne, une campagne législative actuellement en Grande-Bretagne, elle a été suspendue. Finalement, 2 mois après, ce premier attentat, on va dire 2017 à Londres, comment les Britanniques avaient-ils réagi? Est-ce qu'ils avaient pensé que c'était une exception? Est-ce qu'ils se sont dit on va mettre en place d'autres choses ou voilà, où ils avaient vraiment pris le taureau par les cornes?
Si vous voulez, en fait, il faut même remonter, ça n'a pas seulement commencé il y a deux mois, il y a eu des attaques qui ont commencé en 2013, rappelez-vous, il y avait un soldat qui s'est fait égorger, poignarder en plein cœur de Londres, et depuis, les autorités britanniques nous ont dit qu'il y a eu plus de 13 actions terroristes qui ont été déjouées, d'où quand même l'importance et même l'efficacité de cette lutte contre le terrorisme. Mais simplement, on s'aperçoit à quel point, eh bien, c'est compliqué d'être partout, d'être à la fois à Londres, à Manchester, à Birmingham. Les moyens ont peut-être été concentrés, ont été énormément concentrés à Londres, où on pense qu'il y a effectivement des réseaux djihadistes importants. On sait maintenant, depuis plusieurs semaines, qu'on voit qu'il y a des retours de djihadistes importants. On avait eu, vous savez, il y a à peu près 850 Britanniques qui sont partis en Irak et en Syrie. Il y a 200 à peu près, ou 300 qui sont morts sur place, et il y en a à peu près 200 ou 300 qui sont rentrés. Et donc, c'est compliqué à surveiller toutes ces personnes, à savoir comment les liens aussi qu'ils établissent avec notamment les réseaux francophones. Et de ce côté-là, il y a une vraie... Alors, rappelez-vous juste, Theresa May, la Première ministre, était avant ministre de l'Intérieur. Et c'est elle, en juillet 2014, qui a fait passer en niveau ce qu'on appelle le niveau sévère, c'est-à-dire un niveau sur l'échelle des risques. Ouais. Donc, la Grande-Bretagne sait qu'elle est dans une période où les attentats peuvent arriver. On n'est pas dans, on n'était pas dans l'étape la plus ultime, c'est-à-dire les risques une attaque imminente, mais on savait que les attentats peuvent arriver. On l'a vu il y a deux mois au Parlement, et on le revoit malheureusement aujourd'hui à Manchester.
Bertrand Soublé, quelle différence d'approche justement entre la France même et la Grande-Bretagne sur ces sujets? Est-ce qu'il y a une vraie différence, ou alors on se dit aujourd'hui avec l'Europe tout le monde a la même approche, il y a une coopération complète et voilà, on sait aujourd'hui comment approcher?
Non, je pense qu'il y a une vraie différence dans l'approche britannique, qui est une approche plus pragmatique en termes de renseignement. Alors évidemment, ils sont confrontés à des difficultés qui sont un peu différentes des nôtres, parce que ils sont vraiment rentrés dans le communautarisme depuis très très longtemps. Et donc forcément, les attentats de 2005 ont été terribles de ce point de vue-là, parce qu'ils se sont rendus compte que les attentats étaient le fait de ceux qui étaient nés en Angleterre, et non pas venant de l'extérieur. Ceci dit, nous devons aussi regarder ça nous-mêmes, parce que nous avons aujourd'hui des jeunes générations qui sont nées dans notre pays et qui sont à cheval entre deux cultures, qu'on n'a peut-être pas forcément bien intégrées ou bien accueillies, et qui aujourd'hui rejettent notre société. Et je pense qu'il y a une partie de nos terroristes en puissance qui se retrouvent, qui sont dans ce terreau-là, et sachant que, bien entendu, il y a une petite porosité entre la délinquance et le terrorisme.
Alors, il y a eu beaucoup de réactions, bien sûr, suite à l'attentat de Manchester, de différents chefs d'État, et en premier, Donald Trump, hein, qui est en tournée en ce moment au Proche-Orient. Il s'est exprimé ce matin depuis Bethléem. On l'écoute, Donald Trump.
Je ne les qualifierai pas de monstres, parce qu'ils pourraient aimer ce terme. Ils penseraient que c'est un nom génial. À partir de maintenant, je les appellerai losers. Parce que c'est ce qu'ils sont, des losers. Il y en aura d'autres, mais ce sont des losers, souvenez-vous-en.
Voilà, donc Donald Trump, donc, pour sa réaction après l'attentat de Manchester. Frédéric Ancel, que le président américain traite de loser, est-ce que, voilà, on est quoi dans la dialectique de Donald Trump, là?
Oui, c'est ça, oui. C'est-à-dire une non-dialectique sérieuse. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas meilleur moyen de perdre une guerre que de ne pas connaître et de ne pas nommer l'adversaire, et en l'occurrence, l'ennemi. En France, après Charlie Hebdo, Liber Cacher, le Premier ministre Manuel Valls avait désigné clairement l'ennemi. C'était devant toute la représentation nationale, hein, à l'Assemblée, devant les députés, c'était le djihadisme, l'islamisme radical et accessoirement le terrorisme. Si on ne le fait pas, on ne rend service à personne, ni à nos propres sociétés, ni à nos services de renseignement, ni d'ailleurs à l'immense majorité des Français d'origine ou de culture musulmane, dont on sait parfaitement qu'ils rejettent ces barbares qui luttent, soi-disant, en leur non. Donc effectivement, loser, ça veut tout rien dire. Si vous voulez, c'est un terme de... Oui, c'est un terme de chef d'entreprise, oui, c'est très bien. Oui, non, mais il faudrait juste que M. Trump s'aperçoive que les États-Unis, c'est autre chose qu'une entreprise. Donc je pense que ce n'est pas ce genre de terme qui peut être pris réellement au sérieux. Je ne vous parle même pas des adversaires, des amis, de toute façon, ils ne l'écoutent pas. Mais par les chefs d'État occidentaux, africains et arabes, qui attendent d'un Trump, effectivement, des mesures et des mots extrêmement sérieux.
Rapidement, Eric Scholl, juste une chose, on a vu Donald Trump l'a désigné, finalement, parler beaucoup de terrorisme, forcément, notamment quand il était à Riyad, en Arabie Saoudite, mais pas le terrorisme finalement, l'État islamique forcément, c'est l'Iran. Est-ce que, alors là, il n'y a pas une confusion, un logiciel des années 80 qui se remet là-dedans? Enfin, on a l'impression qu'on a un peu de mal à comprendre quand même là.
Si, c'est l'axe du mal que veut recréer en quelque sorte Donald Trump en visant l'Iran, mais il est à la fois aussi dans une logique interne, toujours de revanche vis-à-vis de Barack Obama. Barack Obama qui a fait cet accord avec l'Iran et lui veut s'en sortir. On l'avait vu pendant sa campagne présidentielle où il prenait ses distances beaucoup vis-à-vis de l'Iran, et c'est vrai qu'on a l'impression de revenir quelques années en arrière, alors qu'on avait c'était un accord très compliqué évidemment à monter entre les États-Unis. Il y a eu aussi l'Europe et avait son rôle aussi dans cette partie.
En sachant en plus que l'Iran et l'État islamique, c'est pas du tout la même chose. Voilà, faut quand même aussi le
ça n'a strictement rien à voir. Strictement rien à voir.
L'Iran est une société où les religieux ont le pouvoir, mais où en vérité il y a une grande société civile et il y a une certaine forme de liberté. Et donc c'est assez intéressant.
Je ne sais pas s'il y a une certaine forme de liberté, mais en tout cas il y a une volonté pour, notamment de la part des jeunes, il y a une volonté pour aller chercher des nouvelles libertés. Ça c'est certain.
Et ça c'est intéressant.
Alors justement, forcément, quand l'Angleterre est touchée, bien c'est l'Europe entière qui est concernée, tout comme Berlin, Madrid ou Paris. En France, on pense à la saison des festivals, à la sécurité, au festival de Cannes en ce moment, puisqu'entre le Palais et l'hôtel Martinez, ça ressemble à un corps retranché sur un kilomètre, c'est assez terrible. Les membres du G7 qui vont se réunir en Sicile à la fin de la semaine appellent à une plus grande coopération, mais cela est-il efficace? En tout cas, pour le président de la République, la réponse est dans l'Union, Emmanuel Macron.
Ce qui s'est passé hier à Manchester nous a encore une fois montré que les terroristes sont une cible, le monde libre, la jeunesse, et que nous avons toutes et tous une profonde communauté de destin en la matière.
Voilà, Emmanuel Macron, et comme je me suis un peu trompé sur le timing, je vais laisser mes invités y réfléchir justement à cette magnifique phrase d'Emmanuel Macron dans un instant, car il va y avoir tout de suite l'info à 20h20, et bien c'est Pierrick Bonneau.
Et on vient d'entendre le président Emmanuel Macron et le Premier ministre Édouard Philippe était à l'ambassade du Royaume-Uni cet après-midi. C'est toute l'Europe libre qui a été attaquée, déclare le chef de l'État. Après l'attaque de Manchester, un nouveau conseil de défense aura lieu demain à l'Élysée pour avancer sur la question d'une force opérationnelle, d'une task force anti-Daesh. Emmanuel Macron rappelle la nécessité de renforcer la coopération européenne en matière de lutte contre le terrorisme. Les drapeaux seront mis en berne demain sur tous les édifices publics français. Dans ce contexte, les élèves de deux lycées professionnels de Machecoul, en Loire-Atlantique, ont été confinés dans leurs établissements pendant plus d'une heure. En fin d'après-midi, un homme a priori armé a été aperçu près de la gare routière de la ville. Il est toujours recherché ce soir. C'est la conductrice d'un car scolaire qui a donné l'alerte. Des mesures de sécurité sont prévues demain matin pour le début des cours si jamais le suspect n'avait pas été retrouvé. L'aide-soignante poursuivie pour l'empoisonnement de 13 personnes âgées, dont 10 sont mortes, condamnée à 25 ans de prison par la cour d'assises de la Savoie. Les faits se sont produits dans une maison de retraite près de Chambéry entre septembre 2012 et novembre 2013. Elle encourait la réclusion à perpétuité. Et les sanctions contre le club de football de Bastia confirmées en appel après les incidents du match face à Lyon le 16 avril, notamment la défaite sur tapis vert du Sporting. La Fédération française de football suit dans son intégralité la décision prise en première instance.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous revenons sur l'attentat perpétré survenu à Manchester hier soir, et on l'a entendu donc Emmanuel Macron, tout le monde est au diapason, et forcément ce qui se passe en Grande-Bretagne a une répercussion chez nous. Alors général Bertrand Soublet, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb a envoyé des consignes aux organisateurs d'événements sportifs et culturels. Est-ce qu'aujourd'hui en France c'est possible de faire plus? Il y a un état d'urgence, on voit des militaires qui sont mobilisés, on voit en effet des policiers partout, est-ce que c'est possible finalement de faire davantage?
Ah, il est toujours possible de faire davantage. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire dans la durée. En effet, nous sommes en vigipirate renforcée depuis très très longtemps. L'état d'urgence également depuis 2 ans. Les forces de l'ordre sont très sollicitées. Les militaires sont très présents.
Quand on me dit la clé, c'est le renseignement. Est-ce que finalement c'est vrai? Et pourquoi finalement ça met autant de temps à se reconstituer?
Ah, parce que le renseignement, c'est un travail de longue haleine. Vous savez, en 2008, il y a une réforme du renseignement qui a mis nos services par terre, globalement. J'exagère un tout petit peu, mais je suis pas très loin de la vérité. Et le temps de refaire, à cette époque-là, on a détruit des fichiers. Aujourd'hui, on s'en mord les doigts parce que ces fichiers nous auraient été extrêmement utiles. Donc tout cela, c'est facile de le détruire, mais quand il faut le remettre en route et retrouver, j'allais dire, des banques de données suffisantes pour pouvoir faire face, ça prend beaucoup de temps. Mais le président de la République, de ce point de vue-là, a considéré que il allait consacrer des moyens à cela, techniques, humains. Et je pense que c'est extrêmement important parce que le renseignement se gagne dans la durée et dans la profondeur.
Alors Guillaume Clossat, Berlin, Londres, Paris, aujourd'hui Manchester, les attaques donc continuent quand même sur le sol européen. Cette coopération, elle existe véritablement ou pas ?
Cette coopération, elle existe. Il y avait des accords, des engagements des États membres de l'Union européenne pour une coopération à la fois... parce que elle est à plusieurs niveaux. Hein. Il faut qu'il y ait une coopération policière, il faut qu'il y ait une coopération policière, c'est Europol, judiciaire, c'est Eurojust, et puis entre les services de renseignement. Les États membres de l'Union européenne avaient pris de longue date un certain nombre d'engagements qu'ils n'avaient pas mis en œuvre. Et depuis les derniers attentats, il y a eu une véritable feuille de route pour renforcer et mettre en œuvre de manière véritablement pratique les engagements qui ont été pris depuis des années. Je crois que ça a progressé en France et dans l'ensemble des pays européens, mais n'ayons pas d'illusions. C'est pas parce que qu'on renforce notre coopération que ça suffit à enlever les risques. Les risques subsistent et c'est pas non plus une raison pour fermer les frontières. Le Royaume-Uni est bien protégé et quand il y avait avant Schengen, il y a eu des attentats dans les années 70 et il y avait des frontières relativement hermétiques, ça n'empêchait rien.
Alors donc,
il faut juste comprendre que il faut raison garder, il faut mettre tous les moyens en œuvre pour assurer la sécurité maximale. On a une obligation de moyens, mais il y a un moment où allonger de manière infinie un état d'urgence, ça ne sert à rien parce que les forces sont épuisées et ça a un effet contradictoire.
Alors justement, Eric Scholl, on voit souvent, on en a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle, Schengen, même avant on disait échec, etc., il faut sortir de Schengen. Là, le pays qui n'est pas dans Schengen a été frappé deux fois cette année, donc finalement ça n'a pas trop de rapport.
Non, mais je crois que, comme Guillaume le disait, il y a eu de toute façon un énorme renforcement de la cohésion européenne, et en particulier même depuis le début de l'année. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est plutôt vis-à-vis du Brexit, c'est-à-dire qu'on va avoir... La question qu'on peut se poser, c'est les sorties du Royaume-Uni de l'Union européenne va changer quelque chose dans la bonne coopération qui fonctionne aujourd'hui. La Grande-Bretagne est même aux avant-postes dans la coopération entre les différents pays. Aujourd'hui, même le commissaire européen chargé de la lutte contre le terrorisme, c'est un Britannique. Aujourd'hui, la tête d'Europol, vous avez un Britannique. Et demain, comment ça va s'organiser? Ça va faire partie des tractations aussi. Et d'ailleurs, Theresa May, il y a deux mois, avait commencé à mettre sur le tapis la question de la sécurité en expliquant que si on voulait maintenir une bonne sécurité, il lui fallait derrière des accords sur le plan de la circulation des marchandises.
La vérité, c'est qu'on est sur un sujet qui était autrefois un sujet de souveraineté nationale et un sujet plutôt régalien. Et comme les menaces sont de plus en plus transnationales, elles viennent de foyers lointains, on a besoin d'une souveraineté partagée. Et juste pour rajouter, parce que les réseaux sociaux sont aussi un sujet, les attaques virales ou les cyberattaques sont aussi un sujet, et là il y a aussi véritablement besoin d'une action européenne et peut-être d'une cyberagence européenne de défense et de sécurité. Il y a un embryon, mais c'est absolument insuffisant et ça serait utile.
Alors Frédéric Ancel, quand on entend par exemple les membres du G7 qui vont se réunir, c'est toute notre solidarité, faut faire beaucoup, faut lutter contre le terrorisme, là on annonce la création d'une task force anti-Daesh, on a l'impression que ce sont des choses qu'on a déjà entendu depuis longtemps, depuis janvier 2015. On a l'impression, le G7 nous dit toujours « Ah, il faut lutter contre le terrorisme », les task force secrets, voilà.
Bah, les task force, d'abord, il y en a déjà eu, d'une part. D'autre part, je pense qu'il ne faut jamais jeter le bébé avec l'eau du bain. Ou plus exactement, il faut bien comprendre que la majorité des attentats n'ont pas lieu. Mais des attentats préparés. Il y avait la volonté, il y avait la capacité. Il y a quelques mois encore, la cellule de Strasbourg allait frapper. Bon, je ne sais pas où ni quand exactement, mais elle avait les moyens, elle avait la volonté de frapper. Donc ça, malgré tout, un travail très important est fait. Par définition, l'opinion publique ne le voit pas ou ne s'en satisfait pas à juste titre, mais il faut quand même le dire et le rappeler. Trois, la coopération en termes de renseignement. Pour moi, le renseignement, c'est la reine des batailles dans l'antiterrorisme. Ben, ça nécessite des arbitrages budgétaires. Alors, est-ce que nous sommes prêts à mettre davantage? Ça ne suffira pas. Ah, ça a été très bien dit tout à l'heure. l'heure, à tout empêcher. Mais dans une certaine proportionnalité, plus on met d'hommes et de matériel, en principe, dans une certaine proportionnalité, plus on a de chances, je dis bien de chances, d'empêcher des attentats d'être perpétrés. Et enfin, dernier point, la coopération avec l'Europe, c'est bien, mais d'une part, est-ce que les États d'Europe de l'Est perçoivent la menace islamiste radicale telle que nous ne la percevons? Certainement pas, parce qu'ils ont d'autres théâtres d'opération, d'autres problèmes, notamment la Russie, etc. Et puis, il faut coopérer avec des États qui ne sont pas européens, qui ont été touchés très durement. Je pense évidemment à la Russie, je pense au Maroc, je pense à des États d'Afrique sahélienne qui n'ont pas encore les moyens de ces renseignements efficaces.
Merci beaucoup, en tout cas, Frédéric Ancel, d'être passé ce soir aux Informés de France Info. Merci Bertrand Soublet, Guillaume Clossa et Eric Scholl également. Merci beaucoup. Les Informés de France Info, on continue, mais avec une autre équipe, puisqu'on va parler d'un autre sujet, et notamment la loi travail. Voilà le programme à suivre dans Les Informés de France Info.
Si je te dis porte blindée, tu me réponds ?
Point fort fichet, bien sûr !
Et jusqu'au 3 juin, c'est le mois de la sécurité. Tu peux aller dans l'un des 220 magasins Point fort fichet pour profiter de remises jusqu'à 600€ sur les portes blindées fichet.
En plus, chez Point fort fichet, ils ont aussi des volets roulants haute sécurité certifiés ADP contre les fractions.
Voir conditions en magasin. Point fort fichet, nous protégeons ce que vous avez de plus cher.
Monsieur Store présente Histoire de maison.
T'as remarqué ? J'ai quelque chose qui a changé.
Tu t'es fait refaire la façade ?
Presque ! Je me suis fait poser de nouvelles fenêtres. Et attends de voir ma pergola.
Oh, mais où est-ce que je peux trouver tout ça ?
Chez Monsieur Store. En ce moment, c'est la fête de la maison. Pergola, fenêtres, volets, fermetures, maison connectée et sécurisée. Monsieur Store te fait profiter d'offres exceptionnelles.
Monsieur Store. 1000 façons d'aimer sa maison.
Vous avez un projet ? Appelez vite votre magasin Monsieur Store ou rendez-vous sur monsieurstore.com. Voir conditions détaillées en magasin.
Vous connaissez SodaStream ?
En ce moment, découvrez les offres fêtes des mères au rayon petit électroménager de votre magasin. Informations sur sodastream.fr.
France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Élodie Calac.
Encore une très belle journée demain, du soleil pratiquement partout, avec quelques bémols tout de même le long de la Manche. Pas mal de nuages bas et du brouillard le matin, ça s'arrangera l'après-midi, retour du soleil. Entre la frontière belge, le bassin parisien, l'Alsace, ce sera agréable, ensoleillé, avec quelques passages nuageux inoffensifs. Quelques nuages bas bien vite oubliés aussi vers le Pays Basque, la Côte d'Azur. Le Mistral se maintiendra jusqu'à 60 km à l'heure l'après-midi. Il fera 11 à 15 degrés le matin, jusqu'à 19 dans le sud-est, et puis l'après-midi des températures de pleine été, 21 degrés au Havre, 25 à Lille, à Strasbourg ou à Toulon. Il fera 26 degrés à Paris, 27 à Poitiers, Lyon, 30 à Bordeaux et Perpignan et jusqu'à 31 degrés à Nîmes.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'était Manuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir, un homme de 23 ans arrêté par la police britannique après l'attentat suicide d'hier soir qui a fait 22 morts, dont plusieurs enfants et adolescents, ainsi qu'une soixantaine de blessés. En tout cas, il semble que le kamikaze ait agi seul, il a été identifié. C'est un jeune homme de 22 ans, c'est l'attaque la plus meurtrière sur le sol britannique depuis les attentats de Londres en juillet 2005. Parmi les témoignages recueillis par France Info, celui de Joey, c'est un mancunien, il était dans la salle de concert hier soir de l'Arena à Manchester. Il a tout vu, tout entendu. Il l'a raconté à l'envoyé spécial de France Info, Sébastien Baer.
On a entendu une explosion vraiment forte. Il y a eu un moment de confusion et ensuite tout le monde s'est mis à crier et s'est précipité vers les portes. Les parents ont emmené les enfants aussi vite qu'ils pouvaient. Ils étaient en pleurs, ils hurlaient. Dehors, il y avait aussi beaucoup de parents qui attendaient les enfants. Ils essayaient de les retrouver, de les emmener avec eux. Quand je suis sorti, j'ai vu les gens pleurer au téléphone. Certains étaient couverts de sang. C'est la pire chose que j'ai jamais vécue dans ma vie.
Témoignage d'un spectateur hier du concert à Manchester en hommage aux victimes. Une minute de silence sera observée avant la finale de l'Europa League de football demain entre Manchester United et l'Ajax d'Amsterdam. Et puis en France, les drapeaux seront mis en berne demain sur les bâtiments et les édifices publics. Emmanuel Macron s'est rendu aujourd'hui à l'ambassade de Grande-Bretagne à Paris, le chef de l'État qui affiche sa volonté de renforcer la coopération européenne antiterroriste et annonce la tenue demain, mercredi, d'un nouveau conseil de défense. Philippe Barbarin devant la justice, le cardinal de Lyon Lyon comparaîtra le 19 septembre prochain devant le tribunal correctionnel à la demande de victimes présumées d'agressions sexuelles commises par un prêtre du diocèse. L'aide-soignante empoisonneuse, condamnée à 25 ans de réclusion devant les assises de la Savoie, elle était poursuivie pour l'empoisonnement de 13 personnes âgées, dont 10 en sont mortes dans une maison de retraite proche de Chambéry. Les jurés ont retenu l'altération du discernement. L'avocat général avait réclamé 30 ans de réclusion. Le déraillement mortel d'un TGV d'essai en Alsace, c'était en novembre 2015. Il a été provoqué par une succession d'erreurs d'appréciation qui ont conduit à un freinage tardif. Telles sont les conclusions du rapport final du bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, suite et fin.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés également sur le canal 27 de la TNT. Et là voilà la deuxième équipe, et oui il y a des budgets dans cette émission, c'est incroyable, qui a pris place autour de la table des informés de France Info. Elle n'a pas démérité cette équipe, non. Et les informés de France Info reçoivent ce soir l'entrepreneur Rafik Smati, bonsoir.
Bonsoir.
Également Christophe Alix de Libération, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Vincent Trémollet du Figaro, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Et le comédien et humoriste Christophe Alévèque, bonsoir.
Bonsoir.
Alors je dis juste une petite chose, le 2 juin, vous serez à Marseille, d'ailleurs, parce que vous organisez là-bas la quatrième fête de la dette. Ce sera au théâtre Tourski.
Et tous les bénéfices vont au profit du Secours Populaire. Éric Antoine nous fait le plaisir de venir. Il va faire disparaître la dette. Voilà, donc je vous préviens à partir de 2 juin.
Pour tous les journalistes économistes, vous voulez être au chômage.
Juin, Christophe, je te préviens à partir
sacré tour de magie.
2 juin à 21h, il n'y aura plus de dette, donc prévoyez large. Et puis, il y aura un grand concert.
Alors, je précise que, en fait, c'est la quatrième, et sur le titre peut-être parfois un peu austère de la dette, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de gens que ça intéresse.
L'année dernière à Paris, on a eu 1800 personnes, donc, et on espère qu'à Marseille, là, avec. On a beaucoup parlé d'élections pendant ces derniers temps, beaucoup trop, vivement que ça se termine.
C'est pas fini.
Et donc les gens ont un peu la tête ailleurs, donc venez nombreux, parce que plus il y a de monde, plus il y aura un gros chèque pour le Secours Populaire.
Ça sera le 2 juin à Marseille. Alors juste, bien sûr, au début, Christophe, hier soir, donc, il y a un attentat qui a touché une salle de concert à Manchester. Vous-même, vous êtes sur scène pratiquement tous les soirs. Est-ce que vous avez l'impression que depuis le 13 novembre, depuis le Bataclan, est-ce qu'il y a quelque chose, quand vous montez sur scène, que vous voyez de différent par rapport au public?
Les réactions du public ont changé. Enfin, moi, j'ai même depuis les attentats de Charlie, ouais, et de l'hypercachère, c'est les gens ne rient plus de la même façon. Les gens ne se lâchent plus. Leur rire vient d'ailleurs. Et j'ai l'impression, moi-même, moi en premier, ouais, de tous ensemble, on fait une thérapie collective. Et c'est vraiment ça, quoi. Ce besoin de parler, moi je me souviens, j'avais joué juste après les attentats de Charlie, je revenais de l'enterrement de T-News en plus, et je joue le soir même. Et ça m'a fait un bien fou de parler. De parler des terroristes, de parler des attentats, de nos peurs, de nos angoisses. Parce que il faut, c'est thérapique, hein. Et puis alors, il faut surtout pas s'arrêter.
Alors,
évidemment.
Justement, la ministre de la Culture, donc Françoise Nyssen, a appelé aujourd'hui, donc, à ne pas se laisser guider par la peur et encourager les jeunes et également les moins jeunes à continuer, bien sûr, à se rendre dans les salles de concert, de spectacles, de théâtre. C'est toujours la meilleure réponse, en tout cas, d'y aller. Donc, il faut continuer à aller voir des gens sur scène parce qu'il y en a des biens en plus. Donc, ça tombe bien. Voilà. Donc, l'autre info du jour, eh bien, c'est la même qu'il y a un an. Voilà, avec la loi travail, mais cette fois-ci avec Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Muriel Pénicaud, la nouvelle ministre du Travail, au casting. On garde les dirigeants syndicaux et le MEDEF, et c'est reparti. Tous ont été reçus ce matin à l'Élysée. Pendant la campagne, Emmanuel Macron avait annoncé la couleur. Il souhaite aller plus loin que la loi El Khomri. Hormis le plafonnement des indemnités prud'homales, le regroupement des instances représentatives du personnel et le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur, les contours de la réforme restent assez flous. En fait, hein, tout comme la place laissée aux partenaires sociaux. Si les avis divergent sur la méthode, les syndicats sont d'accord sur une chose, ils s'opposent au plafonnement des indemnités prud'homales. Et à la sortie de leur petit rencard, bon, il y avait Pierre Gattaz du MEDEF qui disait « c'est bien, faut aller plus vite ». Moins pressé, le secrétaire général de Force Ouvrière, Jean-Claude Mailly.
Sur la méthode, j'ai rappelé, il ne faut pas précipiter les choses. Il faut qu'on ait le temps suffisant pour pouvoir se concerter au fond, si c'est une vraie concertation. Alors, j'ai pas de réponse pour le moment, disant oui ou non. Je vais trouver attentif le président sur cette question-là, mais on n'a pas de réponse. Donc, ça va démarrer très rapidement.
Voilà, Jean-Claude Maillet, secrétaire général de Force Ouvrière. Alors, Rafik Smati, vous, en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous l'attendez, cette loi, cette nouvelle loi travail ?
Écoutez, il y a eu une première loi travail dans sa première version, qui était une loi intéressante, mais qui n'a d'ailleurs jamais abouti, puisque c'est la deuxième loi travail qui s'est transformée en véritable usine à gaz. Je l'avais imprimé à l'époque, la loi travail. 588 pages. Quelque chose, un condensé de technocratie complètement illisible. Autant dire que je ne l'ai pas lu. Et je me suis d'ailleurs interrogé sur le sens de cette loi. Alors oui, il y a un certain nombre de verrous qu'il faut faire sauter. Et c'est vrai que la question des indemnités prud'homales, c'est une question intéressante. Et j'espère que le gouvernement et que le président de la République iront au bout. Mais j'ai malgré tout une réserve sur le sens de cette loi. Parce que j'ai relu, pas plus tard que cet après-midi, le programme présidentiel de Emmanuel Macron, et j'observe...
Il en avait un.
Il en avait un, de 17 pages.
J'ai bien fait de venir.
J'observe que dans le programme présidentiel de Emmanuel Macron, page 9, il y a un paragraphe de 4 lignes qui s'appelle, en gros, redéfinir le dialogue social. Dans ces 4 lignes, il y en a 2 qui disent que pas grand-chose ne va bouger, et il y en a 2 qui disent qu'il va... insuffler un petit peu plus de liberté dans l'économie. Mais ce que je trouve regrettable, c'est que lorsque l'on va dans une élection présidentielle, et c'était ce qu'avait fait François Fillon d'ailleurs, on est là pour tout mettre sur la table, et ensuite les électeurs arbitrent. Or aujourd'hui, il y a un flou qui est monumental. Emmanuel Macron ne s'est malheureusement pas fait élire sur des réformes précises, et donc il risque de le payer demain, notamment avec les partenaires sociaux.
Vincent Trémollet, quand on voit finalement, là il y a 2 visions, il y a un gouvernement qui va aller très vite, et là on l'entend Jean-Claude Maillet qui dit non, il faut prendre le temps de la discussion. Est-ce que là-dessus, sur ces sujets, c'est possible d'aller vite, comme le souhaite ce gouvernement ?
Pour réformer, j'en sais rien, mais comme quand ils ont été lentement, ça n'a pas marché. On a passé des émissions passionnantes à parler et de la loi Macron et de la loi El Khomri. Et donc la volonté d'aller vite peut apparaître comme légitime. Moi, il me semble quand même que Emmanuel Macron a compris... depuis qu'il a été élu, qu'il n'avait pas été élu absolument sur un programme et sur les réformes qu'il voulait faire. Et donc, dans les discours, il donne l'impression de laisser une part à ceux qui n'ont pas voté pour lui, c'est-à-dire l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, l'électorat de Marine Le Pen, l'électorat de François Fillon. Et dans cet électorat, il y a des gens qui sont très, très inquiets sur ce domaine-là. Donc, je n'ai pas... C'est de l'analyse, mais je pense qu'il va aller moins vite que ce qu'il disait. Il y a quelques signaux qu'il donne déjà.
Et aussi, il dit que c'est important de le faire en début de quinquennat parce qu'il a vu que François Hollande
avait
eu du mal.
Il sent quand même que le corps social est extraordinairement fragile. De toute façon, pour le faire, il faudra qu'il ait beaucoup d'agilité, beaucoup de doigté, beaucoup d'ingéniosité. Parce que passer en force, ça ne marchera pas. Les positions sont déjà prêtes. Jean-Luc Mélenchon est déjà installé comme opposant premier à cette loi de travail. Et c'est un peu plus important que l'opposition à la loi El Khomri, je pense.
On va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h40, Pierrick Bonneau.
Le déraillement d'un train en Alsace en novembre 2015 est bien dû à une série d'erreurs d'appréciation. Ce sont ces erreurs qui ont retardé le freinage. Selon le rapport final du BEA rendu public ce soir, il y aurait notamment eu une incompréhension au sein de l'équipage. L'accident avait fait 11 morts et 42 blessés au lendemain des attentats du 13 novembre. Le préfet de police de Paris annonce un renfort des forces de sécurité. Dès ce soir, l'entrée et la sortie des salles de spectacle sera sécurisée après l'attentat de Manchester. Un nouveau conseil de défense aura lieu demain matin à l'Elysée. Du côté de l'enquête, la police britannique dévoile le nom du terroriste Salman Abedi, un jeune de 22 ans, mort hier soir lors de l'attaque. Un mot des réactions innombrables ce soir pour le président français Emmanuel Macron à l'ambassade du Royaume-Uni tout à l'heure. C'est toute l'Europe libre qui a été attaquée. Le chef de l'État considère que désormais les terroristes ont une cible, le monde libre et la jeunesse. Les principales organisations syndicales et patronales seront reçues demain après-midi par le Premier ministre Édouard Philippe et la ministre du Travail Muriel Pénicaud. Un sujet à l'ordre du jour, la réforme du droit du travail promise par Emmanuel Macron. Le président de la République avait rendez-vous hier et aujourd'hui à l'Élysée avec les partenaires sociaux pour évoquer ce chantier qu'il compte boucler courant septembre selon la CPME. On le connaissait surtout pour son rôle dans James Bond, l'acteur britannique Roger Moore est mort des suites d'un cancer à l'âge de 89 ans.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de cette première rencontre entre les partenaires sociaux et Emmanuel Macron, vous le savez, pour cette nouvelle loi travail. Vous pensiez que c'était terminé l'année dernière, et bien non, ça reprend même pile là où ça s'est arrêté. C'est fou comme une série, comme Twin Peaks finalement. Justement, Christophe Alévèque, vous avez peut-être entendu pendant le flash, selon ces PME, eh bien, ça devrait être fini, cette histoire, au milieu septembre. Voilà. Est-ce que pour vous, ça va trop vite? Ça va pas assez vite?
Non, voilà. Ni l'un ni l'autre. Je suis devenu macronien.
Oui.
Ça y est. j'ai l'impression, je ne sais pas, qu'on n'a toujours pas changé de président. Et j'ai l'impression que cette impression va durer longtemps. Voilà. L'avantage de Macron, c'est bien parce que vous le rappelez, il n'avait pas de programme. Donc, il pourra toujours dire « je ne vous l'avais pas dit » ou « j'avais dit le contraire ». Mais là où je le suis pas du tout, c'est il remet à l'ordre du jour cette vieille idée de flexi-sécurité,
ça.
Qui est un terme, enfin moi en tant qu'humoriste, c'est magnifique parce que ça ne veut rien dire.
À la fois flexible, voilà. Et de la sécurité.
C'est tout et rien. C'est je suis sûr de garder mon emploi, mais pas sûr non plus parce que voilà. Est-ce que j'ai toujours pas compris, mais on va s'adresser à ceux qui connaissent beaucoup plus, c'est que pourquoi on n'a toujours pas séparé, quand on parle des entreprises, on fait les mêmes réformes pour les petites entreprises et les grandes.
Et les grandes.
Et on fait des exonérations fiscales pour les petites, les grandes. On ne sépare pas. Ça n'a rien à voir.
Alors, Christophe Alix, avant de répondre à cette question, c'est vrai
peut y répondre.
Oui, non, mais bien sûr, on va y répondre. Mais est-ce que vous avez l'impression que le calendrier, voilà, voulu par Emmanuel Macron, c'est tout ça aussi pour éviter ces manifestations, pour éviter cette mobilisation sociale, comme on a pu voir contre la loi El Khomri?
Bah, tout est fait pour. Ils cherchent à avoir une majorité importante à l'Assemblée pour pouvoir voter rapidement ces lois d'habilitation d'ordonnance, parce que sinon, il ne pourra pas passer par des ordonnances. Ils cherchent donc à engager ce grand chantier dès l'été, et on a entendu pour le boucler d'ici le mois de septembre. Donc, ils cherchent vraiment à profiter de cet effet de début de mandat et de ce climat qui a l'air de lui être relativement favorable. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers sur la table,
oui.
Et que quand on regarde dans les détails, parce qu'en fait, on commence à savoir un petit peu ce qu'il veut faire, c'est beaucoup plus ambitieux que la loi El Khomri, et qu'on voit déjà comment la loi El Khomri avait mobilisé dans la rue. Effectivement, tactiquement, il faut aller très vite.
Et c'est vrai qu'Emmanuel Macron l'a dit pendant la campagne. Lui, il joue là-dessus, c'est-à-dire il joue sur le côté « je vous l'avais dit ».
Oui. Alors en même temps, ce qui paraît un vrai problème, notamment, disons un petit peu tactiquement, c'est que on ne peut pas faire passer une telle réforme, telle qui engage tellement la démocratie sociale et la négociation sociale en France, en ayant de son côté que un syndicat qui est le MEDEF. Il va bien falloir qu'il trouve des bouts de CFDT. Ou peut-être même de force ouvrière pour pouvoir aller dans le sens de la réforme. Et donc, probablement, comme on le disait tout à l'heure, il aura sans doute quelque chose à négocier en contrepartie. Alors, et à sortir du chapeau pour que sa réforme puisse être
Vincent
acceptable.
Il y a eu quand même Christophe Castaner, qui est le porte-parole du gouvernement, qui a quand même dit, concernant les syndicats, qu'ils n'avaient pas, je cite, le droit de bloquer la France, même s'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle mesure, surtout quand elle était au cœur du projet présidentiel. En gros, donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça veut dire à partir du moment où c'était dans le projet présidentiel, bon, bah, c'est bon, tout le monde le sait, donc ça passe.
Alors, le problème, c'est que le projet n'était pas toujours extraordinairement précis, La difficulté qu'on a vue pendant la loi Macron et pendant la loi El Khomri, c'est que c'était catégorisé. Et donc, il y a un sentiment d'injustice d'une partie de la population qui se dit pourquoi nous, on ajuste et on fluidifie notre droit du travail quand les autres sont protégés. Et je pense qu'il n'y a pas une équité complète dans son projet de loi. On reviendra à ça, c'est-à-dire que des catégories particulières, je pense que tous les Français considèrent que le droit du travail est trop compliqué, qu'il devrait peut-être être plus fluide, ce serait plus simple d'embaucher, peut-être que les indemnités, on pourrait les discuter quand on est embauché, si jamais on est licencié. Bon, il y a des choses de bon sens, les gens y seraient prêts. Mais quand on dit ça va être telle catégorie et pas celle-là, et alors notamment on va arriver après au secteur public-privé,
ouais,
c'est-à-dire sécurité de l'emploi pour les uns absolus et pas pour les autres, c'est là, à mon avis, qu'il va devoir créer un récit où il va dire où les gens se diront « je ne paye pas pour les autres parce que sinon ça peut s'agréger très vite et M. Castaner peut être démenti par les faits ».
Ravix Mathieu, est-ce que vous aujourd'hui, ce qu'on n'arrive toujours pas à comprendre, c'est toujours cette histoire, on se souvient de la loi El Khomri, c'était est-ce qu'il y a vraiment, si on modifie le code du travail, est-ce que tout de suite il y a de l'emploi?
D'abord, Christophe Alévêque a posé une question tout à l'heure qui est très intéressante.
Ah,
c'est vrai qu'aujourd'hui, nous traitons, mais depuis des lustres, de la même façon la TPE familiale avec une dimension humaine très forte et à l'extrême, le capitalisme prédateur qui n'a qu'une seule obsession, c'est le profit. Évidemment, entre les deux, vous avez un tas de typologies d'entreprises.
Et c'est vrai majorité, que, rappelons-le,
aujourd'hui,
c'est de la majorité.
On sait en effet que le CICE, par exemple, a été un effet d'aubaine pour un très grand nombre d'entreprises multinationales. Alors que aujourd'hui, c'est vrai que les entreprises qui souffrent le plus, ce sont nos petites et moyennes entreprises et nos entreprises de taille intermédiaire dont nous manquons cruellement en France. Mais fondamentalement, ce dont nous avons besoin aujourd'hui en France, c'est de stabilité. La loi travail qui fait 588 pages, ce n'est pas tenable. Il y avait Montesquieu qui avait une formule dans De l'esprit des lois qui disait que les lois que l'on vient additionner affaiblissent les lois nécessaires. Et le problème, c'est que des lois qui changent tous les ans, des règles du jeu qui changent en permanence, compte tenu du fait que nul n'est censé ignorer la loi, eh bien, personne ne peut se projeter dans un environnement aussi instable.
Justement, Christophe Alévêque, vous, quand vous entendez ça, est-ce que c'est possible, finalement, d'aller plus loin que François Hollande et Myriam El-Khomri, ce qu'ils ont voulu, ou Manuel Valls, aujourd'hui?
C'est toujours oui, s'ils font des s'ils passent au forceps, oui, ils y arriveront. Ou alors s'ils profitent du fait qu'on est allongé sur nos matelas tout l'été pour ceux qui peuvent aller en vacances.
C'est ça.
Et puis que en septembre, tout d'un coup, vous n'avez pas suivi le débat. Ah, excusez-nous. On en était là. Ouais. Mais de toute façon, il va faire malheureusement ou heureusement, hein, ça dépend de quel côté on se situe, comme les autres. C'est-à-dire, il va faire ce qu'il peut. Et
c'est-à-dire que quand
question que je posais tout à l'heure, quand l'histoire de Tati. Par
oui,
exemple.
Alors justement, ça, voilà. On va en parler.
Je trouve. Alors, est-ce que j'ai compris ou pas? Mais notre spécialiste va nous éclairer. Est-ce que c'est pas déjà un des premiers dégâts de la loi Macron?
Alors, juste pour expliquer, en effet, sur cette loi Macron, en effet, Christophe Alévêque, puisque vous avez fait un dossier aujourd'hui dessus, dans Libération, c'est cette loi Macron qui n'oblige plus, finalement, aujourd'hui, les grands groupes de payer les plans sociaux de leurs filiales.
Article 101 de la loi de Macron, donc qui vient vraiment à la fin des articles. Un grand groupe n'est plus tenu de payer le plan social d'une de ses filiales si cette filiale
donc là, c'est le cas de Tati et Eram.
Donc voilà, c'est le cas de Tati et Eram. Eram n'a pas besoin, n'a pas à payer le plan social de Tati. Et donc, on peut effectivement imaginer et craindre qu'il y ait des phénomènes de filialisation comme ça, d'activités finalement, qui vont permettre aux grandes entreprises de se dédouaner et un petit peu d'isoler d'une certaine manière des canards boiteux lorsque il faudra payer l'addition.
En organisant la banqueroute et en tenant compte du fait de la loi.
À noter d'ailleurs que même des députés du centre et de la droite s'étaient inquiétés au moment de l'examen de la loi Macron de cette disposition.
Allez, on va continuer à parler de ça justement dans un instant. Pardon, excusez-moi, Christophe.
Mais non, c'était qui inquiétait à l'époque.
Mais bien
déjà
sûr, mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Allez, l'info à 20h50, Pierrick Bonneau.
L'identité de l'auteur de l'attentat de Manchester dévoilée ce soir par la police britannique. Un certain Salman Abedi, 22 ans, mort hier soir lors de l'attaque. Le groupe État islamique a revendiqué l'opération 22 morts et 59 blessés. Daesh utilise l'un de ses canaux de propagande habituels sur les réseaux sociaux et précise qu'un des soldats du califat a placé la bombe dans la foule. Un homme de 23 ans en lien avec l'attaque a également été arrêté. Manchester, c'est aussi une équipe de football. Nous sommes très tristes, mais nous avons un travail à faire, jouer la finale de la Ligue Europa. Voilà comment réagit le coach de United, José Mourinho. Son équipe affronte demain à Stockholm l'Ajax Amsterdam en finale. Une minute de silence sera observée avant le match. C'est ce qu'indique ce soir l'UEFA. Donald Trump appelle Israéliens et Palestiniens à faire des compromis pour la paix. Le président des États-Unis au Proche-Orient, où il a rencontré les dirigeants des deux camps. Il faut prendre les décisions difficiles qui s'impose, a ajouté Trump, avant de quitter Jérusalem sans avoir jamais précisé publiquement comment il comptait s'y prendre pour obtenir un accord de paix. Et puis le CSA ouvre ce soir une procédure de sanction contre la chaîne C8. 25 000 plaintes ont été reçues par le Conseil supérieur de l'audiovisuel depuis un canular jugé homophobe dans l'émission de l'animateur Cyril Hanouna. La chaîne a déjà fait l'objet de deux mises en demeure pour méconnaissance du respect de la dignité humaine.
Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, et l'on voit, on explore à quel point économie et politique sont liés en ce moment, parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs dossiers chauds. Vous en parliez, Christophe Lévesque, de Tati, il y avait aussi GMS Automobile, Arc Verri, autant de dossiers chauds dans lesquels l'État a décidé d'intervenir. Et oui, le gouvernement Philippe est un peu sur un manège en ce moment et doit absolument attraper la queue du Mickey, baptisé législatif, pour tenir 5 ans. C'était le cas donc de l'entreprise GMS, engagée dans un mouvement social et auprès duquel PSA a pris des engagements. Eh bien, c'est une bonne chose pour le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.
C'est une bouffée d'oxygène qui est bienvenue pour l'entreprise GMS. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a une vraie menace qui plane sur l'entreprise. Il fallait impérativement qu'il y ait de nouvelles commandes de la part de Peugeot et de Renault. C'était une négociation pas forcément très simple. C'est bien qu'il y ait de nouvelles commandes. Ça donne de l'air à l'entreprise. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, il faut assurer dans le temps la pérennité de l'entreprise. Et ça, je crois que tous les salariés, tous les syndicats ont parfaitement conscience qu'il y aura des efforts supplémentaires à faire, mais une étape après l'autre.
Voilà Bruno Le Maire, donc ministre de l'économie.
Oui, oui, très drôle. Mais très drôle. C'est très drôle qu'il se retrouve là, quand même. C'était un mec qui a fait 2,5% aux primaires de la droite. Même la droite n'en voulait pas. Et il se retrouve ministre de l'économie. Comment voulez-vous, à un moment donné, que les gens aient confiance dans la politique
et confiance. C'est une chance pour tous, vous voyez.
Mais c'est une chance pour tous. Valls qui s'est retrouvé premier ministre, qui avait fait 5%. Alors, enfin, non, mais c'est le temps des losers.
Alors, justement, Vincent Trémollet, quand on entend ça, Bruno Le Maire, on a l'impression qu'en ce moment, il faut déminer tous les dossiers chauds. Il n'y aurait pas des législatives, là, en fait, le 11 juin qui se. Voilà, il faut absolument accélérer, non?
Tout ce que l'on vit là, depuis 10 jours, et n'est explicable qu'au regard de cette élection législative. Emmanuel Macron a un gouvernement avec pas mal de gens de droite, donne des signaux régaliens très importants, restaure une verticalité du pouvoir qui avait disparu. Tout cela, on ne sait pas si ça va témoigner de ce que sera sa présidence ou si simplement il s'agit de gagner très largement et très vite les législatives.
Et de séduire la droite.
Et de séduire la droite. Sur le cas qu'on vient de voir, bon, que des emplois soient sauvés, c'est toujours une bonne nouvelle, mais on a quand même une impression d'un peu d'une histoire sans fin, parce que des ministres de l'économie qui disent que l'État va rentrer un peu dans le capital pour essayer de trouver une entreprise, c'est quelque chose qu'on le voit depuis 15 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans. Et donc, on ne sait pas encore si, comme le disait Christophe Lévesque, notre nouveau président va être la suite du précédent, et qu'en fait, il ne va pas y avoir de gros changements, ou si l'effet saisissant du macronisme va arriver après l'élection législative. Pour le moment, on est quand même dans un entre-deux politique.
Voilà, Christophe Félix, on se souvient aussi du devenir finalement de ces entreprises sauvées pendant les élections. Voilà, il y a Florange, il y avait des symboles comme ça, et puis bon, après, ça ne s'est jamais très bien passé. C'est ça qui est un petit peu peut-être dangereux aujourd'hui, c'est-à-dire que d'un côté, bien sûr, on sauve des emplois, mais intervenir comme ça dans les entreprises de la part d'un gouvernement où il y a un premier ministre de droite, un ministre de l'économie de droite, ça paraît assez étonnant, non ?
Oui, mais enfin d'abord, être de droite, c'est pas forcément être entre guillemets libéral. D'autre part, je crois qu'il y a une telle, quand même, là-dessus, il y a quand même pour moi une constante ces dernières années, c'est qu'il y a une telle désindustrialisation dans un certain nombre de territoires, ça apparaît tellement insupportable à un certain nombre de publics, que l'État aujourd'hui ne peut plus rester sans rien faire. Et très souvent, on ne sauve pas les entreprises, mais en fait, ce qu'on prépare et ce qu'on aide souvent, c'est à permettre des conditions de sortie et de départ.
C'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron avant le pool. On se souvient pas en second tour, c'est ce qu'il a dit. Hein.
Il a parlé de fait des formations.
Voilà, il a dit mener le combat pour un plan social digne. Voilà. C'est ce qu'il avait dit.
Et le problème, c'est que cette flex sécurité dont on parlait tout à l'heure et qui existe quand même, c'est que effectivement, dans les pays scandinaves, quand on perd un emploi, eh bien, les montants qui sont mis pour la formation des gens qui sont au chômage sont quand même, je crois, sans commune mesure avec ce qu'ils sont en France.
Rafik Spati, quand vous voyez ça, je veux dire, pour vous, il y a un coup politique aussi derrière ?
Écoutez, chaque jour en France, entre 200 et 300 boîtes ferment.
10 000 emplois créés, 10 000 emplois supprimés par jour en France.
On n'en parle pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ce sont celles qui attirent la lumière pour des raisons X ou Y, qui attirent le pouvoir politique, comme par hasard. Et l'État stratège, c'est quelque chose qui me fait bien rigoler. Parce que là, que s'est-il passé ? Aucune solution de fond dans ce dossier. On a demandé l'État actionnaire de Renault, État actionnaire de Peugeot, à demander aux entreprises dans lesquelles il a des participations de commander plus. Mais à quelle logique industrielle cela répond-il ? Commander plus. Si Peugeot n'avait pas besoin d'autant de pièces, pourquoi va-t-il passer des commandes ? Vous savez, ça me rappelle l'épisode, le sauvetage de l'usine Alcatel-Belfort en novembre dernier.
Oui.
Alstom.
Commander des TGV.
On a obligé la SNCF à commander 16 TGV. Mais là où c'est cocasse, c'est que comme la SNCF n'avait pas besoin de ces TGV, on va les faire rouler sur des lignes à petite vitesse. Alors si c'est ça l'état stratège, et si pour en arriver à sauver des emplois en apparence devant les caméras de télévision, on en arrive à faire des aberrations, eh bien non.
Allez, ça va se terminer les informés de France Info. D'ailleurs demain, les principaux syndicats seront reçus cette fois-ci à Matignon, après l'Elysée. Merci beaucoup en tout cas Rafik Smati, Christophe Alévèque, le 2 juin à Marseille, 4e fête de la dette, cette fois-ci au théâtre Tourski. Et voilà, avec l'accent, mais il y aura des sketchs d'accent aussi, on vous promet, oui. Si vous n'aimez pas. La une de Libération, Christophe Alix demain.
Manchester, l'enfance assassinée.
Voilà, retrouvée, et la une Figaro.
Manchester aussi, mais avec aussi dans le Figaro un gros dossier sur la loi travail.
Allez, il est temps pour nous de retrouver Matteo Maestrachi. On n'aura même pas eu le temps de saluer Roger Moore quand même dans cette soirée qui est vraiment pas terrible. Donc en tout cas, voilà, Matteo Maestrachi, bonsoir.
Bonsoir.
Pour le Classico,
je
ce soir.
Roger Moore, du
mais
coup,
je sais, il paraît.
Pour
il
l'occasion.
Paraît d'ailleurs, hein, dans certaines
bonsoir,
soirées.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. On va parler évidemment du retentissement dans le sport de cet attentat de Manchester. Le sport également visé comme la culture. Les Football Leagues également avec des perquisitions ce matin au Paris Saint-Germain. El Loco, Marcelo Bielsa officiellement présenté à Lille. Et Griezmann sur le départ, info ou intox, voilà le sommaire, le menu.
Et oui, le Classico dans quelques minutes sur France Info.